VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est cet après-midi que sera donné le coup d'envoi des 8e Jeux de la Francophonie. Ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny, en présence de plusieurs dirigeants politiques de l'espace francophone. Plus de 4000 athlètes venus d'une cinquantaine de pays vont prendre part à cette manifestation culturelle et sportive. À Abidjan, nous retrouvons notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Abidjan, capitale de la francophonie. Jusqu'au 30 juillet prochain, la capitale économique ivoirienne va abriter le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Plus de 4000 participants, artistes et athlètes venus des quatre coins du monde vont se retrouver ici au bord de la lagune ébriée dans un esprit de fête et d'échange. Ousmane Lougué est peintre burkinabé. Il participe pour la première fois à ces jeux.
On est venu pour chercher la médaille d'or. C'est d'abord la première des choses. Après ça, c'est surtout les rencontres. Et puis, bon voilà, les échanges, c'est surtout ça dans le domaine artistique. Ça compte beaucoup. Le cadre est bien, mais bon voilà, ça se passerait bien plus loin.
Autre délégation présente à Abidjan, la délégation libanaise. Au plan culturel, le pays des cèdres pourra compter sur le groupe Champlain en compétition dans la catégorie chanson. Elias Talouf est membre de ce groupe.
Vous allez voir, vous allez tomber amoureux des chansons parce que ce sont de belles chansons et ce sont des chansons originales. C'est nous-mêmes qui avons fait les chansons et quelque chose de génial.
Les Camerounais sont aussi à Abidjan pour ces Jeux de la francophonie. La délégation venue de Yaoundé compte plus de 120 artistes et athlètes. Et en football, les Lions entendent se faire respecter. Baïzo Olivier, capitaine des Lions Indomptables.
Nous avons un moral très haut pour aborder cette compétition qui commence dès vendredi. Pour nous, nous avons une poule, une très grande poule. C'est-à-dire la poule du Mali, Niger, Congo.
Pour les Jeux, votre ambition, c'est quoi?
Votre ambition pour nous, toute la délégation camerounaise, la team camerounaise, c'est de rentrer avec tout au Cameroun.
Avec tout, hein?
Oui, avec tout.
Côté organisation, la Côte d'Ivoire peut déjà se féliciter d'avoir réussi à mettre à la disposition des participants des infrastructures de très grande qualité. Le stade Félix Houphouët-Boigny et bien d'autres sites sportifs et culturels ont été totalement rénovés. Un village pour l'hébergement des délégations a été construit. Les artistes et athlètes sont là, tout est en place en vue de faire de ces jeux une réussite. Mais avec les bruits de boîte que connaît le pays depuis quelques semaines, la grosse et véritable inquiétude est liée au climat sécuritaire. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, tient à rassurer les participants.
Je les rassure, ce sont juste des opérations sporadiques pour empêcher le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le niveau d'organisation des forces est tel que notre capacité de réaction sera toujours au rendez-vous.
Plus de 10 000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de ces jeux. Des jeux qui devraient être suivis par quelques 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro, a demandé jeudi, en vue d'une réconciliation nationale, pardon aux Ivoiriens et à son principal adversaire du passé, l'ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye, où il est jugé par la CPI. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation. Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo, a déclaré à l'AFP, M. Soro, à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Premier ministre de 2011 à 2012, Guillaume Soro a été le chef de la rébellion pendant la décennie 2002-2011 de crise politico-militaire ivoirienne qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Le gouvernement camerounais rejette catégoriquement les accusations d'Amnesty International qui accuse l'armée dans un rapport de torture ayant entraîné la mort de dizaines de personnes dans le cadre de sa lutte contre Boko Haram. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement estime que les soldats camerounais sont bien formés en matière de respect des droits humains. Issa Chiroma Bakari.
Boko Haram aujourd'hui a complètement désorganisé notre économie. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 1600 civils tués, plus de 250 militaires qui sont abattus par Boko Haram. Évidemment, peut-être ça n'intéresse pas Amnesty International, mais le président de notre pays qui rend compte à son peuple de la manière dont il gère cette guerre, à présent à l'esprit, toutes les souffrances, toutes les difficultés dans lesquelles cet ordre de bandits de grand chemin nous a précipités. Je reproche également à Amnesty International de ne pas soumettre à une contradiction leur rapport, ou en fin de semaine ou la semaine prochaine, je donnerai une conférence de presse au cours de laquelle nous réunirons tous les éléments, toutes les pièces à conviction qui balayeront donc du revers de la main toutes ces accusations qui sont fantaisistes, mal fondées, et dont l'objet est probablement de jeter du discrédit sur une armée redoutable par son efficacité et qui protège l'intégrité territoriale de notre pays.
Issa Kiroma Bakary, le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. Le maire de Niamey, la capitale nigérienne, Hassan Seydou, a été révoqué jeudi par un décret pris en Conseil des ministres. Le communiqué gouvernemental lu à la radio d'État ne précise pas les raisons de cette sanction. Cette révocation survient cependant une semaine après une visite de la ville par Mamadou Issoufou, le président du Niger. À l'issue de cette dernière, il avait reproché aux responsables municipaux leur insouciance incompréhensible face à la grande insalubrité et au manque d'assainissement de Niamey. Les États-Unis ont prévenu jeudi le Soudan du Sud qu'un nouveau plan de paix visant à consolider l'accord de paix non respecté de 2015 représentait la dernière chance pour Juba de mettre fin à la guerre civile qui déchire le pays depuis près de 4 ans. L'ambassadrice adjointe américaine auprès des Nations Unies, Michelle Sisson, a indiqué aux membres du Conseil de sécurité que Washington réévaluerait son soutien à l'accord de paix signé il y a 2 ans par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, mais qui a depuis volé en éclats si le nouveau plan n'était pas respecté. L'IGAD, un groupe régional de pays d'Afrique de l'Est, est tombé d'accord ce mois-ci pour mettre en place un forum de revitalisation en vue d'un cessez-le-feu permanent et à relancer les négociations pour mettre fin au conflit. Un manifestant dans le coma a été hospitalisé dans la nuit de jeudi à vendredi après des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Al-Oseima, dans le nord du Maroc, ont indiqué les autorités locales. Cette blessure à la tête est due à des jets de pierre, ont-elles précisé, cité par l'agence officielle MAB, qui a précisé qu'une enquête avait été ouverte pour élucider les circonstances de cet incident. La victime devait être évacuée par hélicoptère vers un hôpital de Rabat, d'après l'agence marocaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7:07 à Washington. 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016 dans le monde, soit presque moitié moins que lors du pic de décès atteint en 2005. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU publié hier en amont de la conférence internationale de recherche sur le sida du 23 au 26 juillet à Paris. La région qui a le plus progressé est l'Afrique australe et de l'Est. Pour l'organisation, la balance a enfin penché du bon côté dans la lutte contre l'épidémie. Docteur Peter Gies de l'ONU SIDA dit que son organisation ne va pas baisser les bras.
D'une part, il reste un grand écart à combler quand même aussi dans le traitement. Après ça, on voit qu'il y a certains groupes qui sont moins avancés que d'autres. Par exemple, souvent les jeunes qui vivent avec le VIH, ils sont moins conscients, ils ont moins accès au traitement. Nous constatons la même chose aussi pour les hommes. Nous voyons aussi qu'il y a certaines régions du monde où en fait les choses ne vont pas dans la bonne voie. En Europe de l'Est et l'Asie centrale. Et donc tout cela nous amène à dire qu'il reste beaucoup d'efforts à mener dans la lutte contre le sida.
Dr Peter Gies, directeur du département information à l'ONU SIDA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté jeudi 2 groupes armés syriens, 2 sociétés de transfert d'argent et 4 personnes sur la liste noire des sanctions pour leur lien supposé avec le groupe État islamique et Al-Qaïda. Les 8 noms figuraient dans l'annexe d'une résolution rédigée par les États-Unis sur la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil. Les 2 groupes, dont Jaesh Khalid Ibn al-Walid et Jun al-Aqsa, liés au groupe État islamique après avoir été précédemment liés à l'ex-front al-Nusra, aujourd'hui rebaptisé Fateh al-Sham, proche d'Al-Qaïda. Et puis au Venezuela, 2 jeunes manifestants ont été tués hier lors d'affrontements pendant la grève générale convoquée par l'opposition contre le président Nicolas Maduro. Le bilan des morts s'établit maintenant à 99. Après 4 mois de manifestations, l'opposition veut que M. Maduro renonce à son projet de modifier la Constitution et quitte le pouvoir. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.